Europe 1.
Crime de sang, agression sexuelle, vol avec violence. Chaque année en France, des centaines de milliers de personnes deviennent des victimes. La vie de leur famille, de leurs proches, s'en trouve chamboulée à jamais. Mais on oublie souvent que derrière les coupables, il y a aussi des familles pour qui la vie non plus ne sera plus jamais la même. Comment lutter contre la honte et contre la culpabilité ? Comment faire face à l'incompréhension et au rejet des autres ? Comment porter le fardeau d'un crime qu'on n'a pas commis ? Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Lydia. Sa vie a basculé un soir d'été, le jour où son fils aîné a commis l'irréparable. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier, soyez les bienvenus.
C'est d'abord dans les Ardennes que je vais rencontrer Lydia. Cette mère de quatre enfants a accepté de me raconter son histoire, une démarche rare et courageuse, les parents de criminels étant toujours montrés du doigt. Le fils de Lydia a 24 ans quand il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre, précédé d'actes de torture et de barbarie. Il est aujourd'hui incarcéré. Lydia.
Olivier.
Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va.
Vous êtes aujourd'hui la maman d'un enfant qui a commis un crime. Qui est incarcéré aujourd'hui pour cela. Il a été condamné à 20 ans de prison.
20 ans de prison, dont 2/3 de sûreté.
Est-ce que vous arrivez à vous expliquer ce qui s'est passé ?
Pas vraiment. C'est un enfant, un petit garçon qui était souriant, joueur.
Et il arrive,
gentil, serviable. Et il arrive un moment où son expression du visage, il était triste. On voyait bien qu'il y avait de la tristesse dans son... Dans sa façon d'être, il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Oui, vous y pensez tous les jours.
Tous les jours. Mm-hmm. La petite pensée du matin et la petite pensée du soir. Il faut que je me batte pour mon fils. Pour qu'il sache que je suis toujours là, mm-hmm. malgré ce qu'il a pu faire. Mon fils a commis un crime, certes, mais ça reste un être humain. Mm-hmm. Il a été condamné, il est en train de payer ce qu'il a fait. Mais le regard des gens, quand ils savent, sans rentrer dans les détails, que mon fils est en prison, j'ai un peu l'impression que le regard change. Et c'est pas quelque chose... Enfin, je parle pas facilement de ce drame, finalement. J'ai l'impression d'être jugé. Je suis libre, mais pas vraiment. J'ai mes autres enfants, mais j'ai beau avoir de l'espace, mais moi, j'ai l'impression d'être des fois enfermé aussi.
En 1988, Lydia a déjà deux enfants, Alexandra, 3 ans, et Johan, 9 mois. Séparée du père de Johan, elle rencontre alors l'homme qui partage toujours sa vie et qui a élevé ses enfants comme les siens. Ensemble, ils ont eu deux garçons, âgés aujourd'hui de 22 et 9 ans. Johan connaît une enfance heureuse auprès de ce beau-père qu'il considère comme son père. Mais à l'adolescence, il demande à rencontrer son père biologique.
Il était tracassé du fait de ne pas connaître son géniteur, mais...
Comme beaucoup d'enfants.
Comme beaucoup d'enfants, finalement, qui ne connaissent pas leur père, donc qui veulent savoir, qui veulent le voir, qui veulent mettre un visage sur un nom, aussi. Donc, moi, je l'ai recontacté, et c'est là qu'ils ont repris contact tous les deux, quoi.
Johan avait fantasmé ce père biologique ?
Je pense. Oui, je pense qu'il l'avait mis sur un piédestal, même. Et ça ne s'est pas très bien passé.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je pense que son père a essayé de l'éduquer. Bon, 14-15 ans, je ne sais pas si on peut continuer à éduquer quand on n'a jamais été là. Il a forcé le passage. Je suis ton père, c'est comme ça. Enfin, il a voulu instaurer son autorité à lui. Et je pense que mon fils n'attendait pas à ça du tout de sa part. Il attendait qu'il s'intéresse à lui, à ce qu'il faisait au niveau de l'école, au niveau de son sport, au niveau de sa petite vie de jeune adolescent, quoi. Ça a été un échec total pour lui. C'est vraiment là qu'on l'a vu glisser doucement. Ça a commencé par des petits cambriolages, il y a eu des fugues, il a fallu que j'aille, on allait le rechercher au commissariat ou au centre de centrale de police. Ou... Il y a eu plein de petits délits comme ça, en fait.
Il a commis des choses plus graves après ?
Il y a eu une histoire d'agression avec le gardien de son immeuble. Des agressions sur personnes âgées.
C'était devenu quelqu'un de violent
C'est devenu quelqu'un de violent.
Johan enchaîne les délits. Il finit par être incarcéré et condamné à des travaux d'intérêt général. À la même période, il est placé sous suivi psychologique et médicamenté. Lydia tente de le remettre dans le droit chemin, mais sans succès.
C'est un moment de sa vie où il voulait entendre personne.
Lorsqu'on a un fils comme ça, qui est en colère, qui fait des bêtises de plus en plus graves, on devine qu'il peut y avoir une progression. Comment est-ce que vous vivez ça à cette époque ?
Sur le moment, on se dit que ça va se calmer. Ben, ça va redevenir normal en lui expliquant, même s'il ne l'entend pas sur le coup. Mm-hmm. Peut-être qu'en réfléchissant le lendemain ou sur le lendemain, se dire « Maman, elle a peut-être raison, j'ai tout ce qu'il faut, donc il faut que je m'en mette sur le droit chemin pour pas aller en prison pour de longues années. »
Comment est-ce que vous réagissez à ce virage que prenait cet enfant qui, jusque-là, vous avez posé aucun problème ? Vous le reliez directement à son père ?
Oui. Je peux même dire aujourd'hui que je pense qu'il est, si moi je me sens coupable et responsable, lui, il en est coupable et responsable de la situation où mon fils se trouve aujourd'hui. Mm-hmm. Parce que, petite anecdote, mon fils l'a appelé.
C'est-à-dire que votre fils avait un téléphone en prison ?
Ce qui n'est pas légal. Bon, je ne sais pas la conversation qu'ils ont eue, apparemment c'est une conversation qui s'est mal passée. Et donc son père a appelé la direction pour dénoncer son fils. Et le portable, c'est punissable en prison. Hein.
Bien sûr.
Ils repassent devant un tribunal et ils prennent des peines.
Hein. Ouais.
Mon fils l'a très, 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 très mal pris déjà qu'il l'avait rejeté avant.
Est-ce qu'il va voir son fils ?
Non. Je pense que pour lui, il n'existe pas.
À 20 ans, Johan part s'installer avec sa petite amie de l'époque à plus de 600 km. Pendant un an, il semble enfin se stabiliser. Mais sans que Lydia n'en sache rien, la situation de son fils dégénère. Il boit et frappe sa petite amie qui le quitte. Il commence alors à fréquenter l'un de ses collègues ouvertement homosexuel. Le 3 juillet 2012, la soirée prend une tournure sexuelle et Johan, qui a alors 24 ans, dérape. Il séquestre, torture et poignarde son ami. Le lendemain, l'ex-petite amie de Johan prévient Lydia par téléphone.
Elle me dit juste qu'il a tué quelqu'un et que donc il en garde à vue. Honnêtement, j'ai du mal à la croire. Ça devait être sérieux quand même, mais jusqu'à aller tuer la personne, là j'ai dit non, c'est un coup de folie, il est devenu fou. S'il a tué une personne, il est devenu fou. Voilà. Et même quand je suis allée à la gendarmerie, je leur ai dit, là vous ne me parlez pas de mon fils, c'est pas mon fils.
Tentative d'homicide et acte de torture et de barbarie. Et lorsqu'on est une maman aimante comme vous l'êtes, quoi. Qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur là ?
C'est tempête, ouragan, de toutes sortes. On passe par toutes sortes de phases en fait. Je réalise pas et je le revois petit quand il gambadait, quand on jouait, quand il était avec ses frères et sœurs, quand on était à table, quand une vie normale.
Ouais.
Voilà.
On se raccroche à ce genre de d'image.
C'est ça. On a envie de les retenir et puis que le reste soit effacé.
Mais ça ne peut pas vrai.
C'est irréel.
Brûlure de cigarette, lacération avec un tesson de bouteille, coup de couteau, l'ami de Johan échappe de justesse à la mort. Un acharnement et une cruauté que Lydia ne comprend pas. Mais elle ne renie pas son fils pour autant.
Je peux pas l'excuser. Je peux pas. Je pense que c'est mon fils, certes. J'aime tous mes 4 enfants, je les aime. Mais quel parent pourrait. On ne peut pas cautionner ça, même sans être parent. En tant qu'être humain, on ne peut pas cautionner ce que mon fils a fait. Après, ça reste mon fils, à savoir comment il a pu en arriver là et si lui s'explique son comportement, parce que ce n'est pas sa personnalité. Mmh. Voilà. Après, les gens le percevront peut-être autrement, les gens qui le connaissent. Mais moi, c'est toujours pareil, c'est le regard de la maman.
Bien sûr.
Après, il y a peut-être des mères qui n'auraient pas suivi ou qui n'auraient pas... Enfin, moi, je peux pas laisser tomber mon fils.
Embarqués malgré eux par le crime de leur fils, Lydia et son compagnon sont propulsés brutalement dans la machine judiciaire. Après 2 ans d'instruction, le procès a lieu en 2014 aux Assises du Doubs. Lydia est appelée à témoigner à la barre.
Je me doutais un petit peu que c'était pour avoir des points positifs, si on peut dire comme ça, pour pouvoir, pas l'excuser, mais donner notre image de mon fils. Se dire que c'était quelqu'un de normal avant. Il a eu une enfance normale, une adolescence à peu près normale jusqu'à 15 ans. Mmh. Non pas qu'il voit que l'auteur d'un drame. Pour pouvoir aussi le juger justement.
Comment est-ce que vous abordez ce procès? Dans quel état êtes-vous en fait?
J'avais peur.
Du regard qu'on pouvait porter sur vous?
Le regard et la peine qu'il allait prendre. Et je ne me tiens pas à la barre parce qu'il faut se tenir à la barre. Je me tiens à la barre pour réellement ne pas tomber.
Pas tomber.
C'était dur aussi d'être exposé un peu comme un animal. Ben on regarde et puis on épiait mes gestes, on épiait mes façons de marcher, de comment je me comportais. Les regards en disent long et je sais à peu près ce que les gens pensent. Mmh. Voilà, c'est de ma faute et que c'est notre éducation qui a fait que mon fils en est arrivé là.
Qu'est-ce qui vous est reproché finalement? Mais est-ce qu'il a été sous-entendu par cette justice que vous aviez manqué à quoi que ce soit dans l'éducation de Johan?
Qu'on a été trop dur et trop sévère avec. C'était trop,
trop
strict.
Trop
strict.
Qu'est-ce que c'est strict? Ça se traduisait comment pour...
Il allait à l'école le matin, il rentrait pour manger le midi. À une certaine heure, c'était plus de son plus d'image, il fallait se lever le matin, mais qu'ils aient une hygiène de vie correcte quoi, pour être concentré, être. Équilibré.
Il y a plein de gens qui éduquent leurs enfants comme vous les avez éduqués.
Je sais que mon fils aujourd'hui me dit que ce n'est pas notre éducation. Mm-hmm. Il essaie de me rassurer, oui, parce que c'est ça aussi, de me dire de surtout que je me déculpabilise. Il me dit, maman, t'y es pour rien, c'est moi, et arrête de... Mais après, je lui explique, je dis, je suis une maman. Donc, oui, j'essaye de... il faut faire avec, donc j'essaye de... La culpabilité, elle est encore là. Elle n'est pas partie.
Comment est-ce que vous avez pris cette remise en compte de votre éducation? Comment est-ce que vous avez pris ça?
J'ai pris une claque. Parce que là, on se dit... c'est là qu'on se dit... on a raté quelque chose. C'est qu'il y a eu un moment où on n'a pas su gérer en tant que parent. Même si on a essayé de... Tout au départ de ces délits, d'essayer de le remettre dans le droit chemin, de lui expliquer que c'était pas comme ça que la vie fonctionnait.
Au procès, il semble avoir réalisé ce qu'il a fait. Quelle est son attitude?
Pas le premier. Je pense que le premier, il réalise pas. Il sait qu'il est là pour quelque chose de grave, mais il se rend pas compte de la gravité de la chose. Dans ma tête, je me disais, mais défends-toi, explique-toi. Bon, puis les familles aussi ont besoin de réponses.
Bien sûr.
Voilà, c'est pour pouvoir comprendre comment aussi leur fils a pu se retrouver dans une situation avec un copain comme ça.
Quel regard portait cette famille sur vous, à votre avis? Est-ce que vos regards se sont croisés? Est-ce que peut-être des mots ont été échangés ou pas?
Pas de mots échangés, mais je les ai ressentis quand même. C'est une maman aussi. Donc, je peux comprendre qu'elle n'ait pas eu envie de me parler.
Bien sûr.
Voilà. Moi, c'est pas que j'ai pas voulu lui parler, mais si elle était venue vers moi, j'aurais été prête à l'écouter, à l'entendre, même à entendre sa colère envers mon fils. Mmh. Voilà.
Vous aviez envie de lui parler, vous? Vous aviez envie de vous excuser à la place de votre fils?
Presque, oui. Oui, m'excuser. Oui, c'est ça, oui, m'excuser pour ce que mon fils a pu faire à son fils. On a vécu toutes les deux un drame, finalement.
Après que vous y ayez témoigné, vous avez tenu à rester dans la salle de
Oui, oui de parce que je tenais à ce que mon fils voie que j'étais là. C'était pas spécialement pour entendre ou écouter ce qu'il pouvait se dire à la fin du procès, parce que finalement, une fois que j'avais témoigné, honnêtement, c'est presque que j'entendais plus rien. Voilà, moi, j'étais focalisée à regarder mon fils, voilà, à croiser son gars pour lui faire comprendre que... lui dire toujours j'étais là, quoi.
Ouais.
Toujours, ce que j'essaie toujours de faire depuis qu'il est incarcéré, lui dire et lui montrer que je suis là, on est là. Voilà, et qu'on ne le laissera pas tomber. Je ne le laisserai pas tomber.
Johan est condamné à 20 ans de réclusion, dont 2/3 de sûreté. Une sentence très lourde, confirmée lors du procès en appel.
J'ai essayé de me dire que un peu d'espoir qu'ils allaient lui enlever au moins la sûreté. Mais...
ce deuxième procès s'est clôturé sur le même verdict.
Sur le même verdict. On va dire heureusement qu'il y avait le banc, parce que voilà, je suis tombée sur le banc. Mon mari est à côté de moi, il me soutenait et ça a été le choc.
Vous avez appris pas mal de choses sur lui au deuxième procès.
Parce que le deuxième procès, ils ont beaucoup parlé de son homosexualité. Enfin, qu'il serait homosexuel.
Oui, parce que ça part de là.
Ça part de là. Du fait qu'il n'assumait pas son homosexualité s'il était homosexuel, ça lui avait fait péter un câble du fait que son copain lui avait fait des avances.
Comment a-t-il réagi par rapport à tout cela, Johan? Est-ce qu'il a admis être homosexuel? Est-ce que...
Pas vraiment.
Pas vraiment.
Pas vraiment. Je pense que même lui, il ne sait pas.
Il ne sait pas?
Non, je pense que même encore aujourd'hui, il doit être déstabilisé de ne pas lui-même savoir si son orientation sexuelle est vraiment celle qu'on lui a décrite.
Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, d'ailleurs?
Honnêtement, je l'ai bien regardé dans les yeux. Je lui ai dit qu'il soit homosexuel, hétéro, bisexuel. Là, à l'heure d'aujourd'hui, ça m'était complètement égal.
Mais sa colère...
N'a pas été expliquée.
N'a pas été expliquée? Le fait que Johan soit né d'un père que vous avez quitté parce qu'il était violent?
Oui.
Est-ce que ça a été mis en avant au procès ou ça a été oublié?
Non, ça...
Pas dit à aucun des deux procès?
Aucun moment. Même aux auditions, même... ils n'ont jamais parlé du géniteur.
Au cœur de vos interrogations, vous, il y a la personnalité de ce fils.
Oui, voilà, pour moi, il y a deux personnes différentes.
Vous n'avez jamais été traversé par un sentiment de rejet de votre fils, un ras-le-bol de tout ça?
Oui, je pense que j'ai dû avoir un moment de colère, mais c'est plus de la tristesse, de la peine, de tout ce qui peut arriver à ma famille. C'est surtout quand on est en famille avec moi, avec mes deux autres garçons, mon mari, ma belle-fille, quand vous voyez, ça va arriver Noël. C'est des périodes difficiles.
Ouais.
Les anniversaires, ça y est. C'est les périodes les plus difficiles depuis qu'il est incarcéré. Il nous manque quelqu'un. J'ai pas 3 enfants, j'en ai 4. Donc moi, il manque quelqu'un.
Johan est incarcéré depuis 4 ans à plus de 200 km de ses parents. La distance et les contraintes d'organisation ont obligé Lydia et son époux à acheter un camping-car afin de pouvoir lui rendre visite.
Derrière la personne incarcérée, il y a une famille. Et la famille, même si elle n'est pas coupable, elle est condamnée aussi. On est condamné à aller le voir en prison, on est condamné à s'organiser pour... Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font que finalement, même si on est à l'air libre, qu'on est dehors, même qu'on a notre liberté, mais voilà. Depuis 4 ans, j'ai le sommeil qui part petit à petit, l'appétit, j'en ai pas. Je m'effondre assez facilement quand même. Ma petite famille, mon travail, c'est ce qui me permet de tenir. Si je ne travaillais pas, que je serais encore la maman au foyer, je pense que je ne serais peut-être même pas là pour en parler, quoi, parce que c'est trop lourd. Les moments où je me retrouve toute seule, je les évite, parce que je sais que ça va cogiter. À me remettre encore en question, à me dire j'espère que ça va aller pour lui là-bas. Que...
Ces visites, ça vous tient en même temps? J'ai l'impression que ça a une importance énorme pour
c'est
vous.
C'est capital. Déjà qu'on le visite très peu. Si j'arrête mes visites, mon fils n'a plus rien.
Il est seul.
Il est seul, il n'a pas, il a personne à part en nous. Mon mari, ça lui tient aussi à cœur de Enfin, il tient à venir voir mon fils.
Bien sûr, mais c'est son fils aussi. Hein.
Voilà, il pourra faire la pire chose du monde, ça restera notre enfant. Mm-hmm. Puis je me sentirais trop mal de le lâcher, non. Je peux pas concevoir de... Même si ce que mon fils a fait est grave et dramatique et choquant, et c'est pas une bête, c'est pas un monstre, comme on a pu aussi le dire. Mm-hmm. C'est un être humain. Voilà, à un moment de sa vie, il a pété un plomb. J'espère mm-hmm. qu'on lui laissera une seconde chance. J'espère. Ça va être un long passage, mais ça restera qu'une mauvaise passe. Mm-hmm. Qu'il faut qu'il assume. Il faut qu'il paye pour ce qu'il a fait.
Comment il va, Johan, aujourd'hui? Comment vous le trouvez?
Ben, il travaille sur son... sur l'acte qu'il a commis. Voilà, se remettre en question, et j'espère que son enfermement va l'aider à déjà admettre ce qu'il a fait, et qu'il va falloir qu'il vive avec aussi maintenant.
Vous appréhendez la sortie?
Peut-être. Moi, j'arrive pas à me projeter dans 10 ans. Est-ce que je serai encore là? Et la maladie, un accident, c'est vite arrivé.
Contre la vie de tous, en tout cas contre la vie de votre mari, de votre fils, le plus grand, même de Johan, vous avez décidé de parler.
Oui.
Pourquoi, en fait, vouloir raconter cette histoire, votre histoire?
Pour montrer à d'autres mamans, parce que j'ai pas... Moi, j'ai personne, je suis toute seule, je me bats toute seule, on se bat toute seule avec mon mari, voilà. Et s'il y a des mamans qui sont dans une situation similaire et... leur dire qu'elles sont pas toutes seules. Il faut arriver à se relever, et puis il faut continuer à vivre. On peut pas savoir ce que l'avenir nous réserve. On peut pas dire on fera comme ça avec nos enfants, ils seront comme ça plus tard. Mais jamais de la vie j'aurais pensé me retrouver dans une situation pareille. Je pense qu'il y a des moments qui comprendront de quoi je parle. Voilà.
La peine et le sentiment de culpabilité ne quittent pas Lydia. Depuis le drame, ils accompagnent chaque instant de sa vie.
Honnêtement, je ne sais pas comment j'arrive à, surtout moralement, à tenir. C'est une douleur inexplicable. De toute façon, je n'arriverai jamais à l'expliquer. Mais quand on dit que nos enfants viennent de nos entrailles, il y a quelque chose à l'intérieur qui nous ronge, qui bouge dedans, et ça nous fait mal. Mais une douleur, c'est pas explicable, mais une douleur, une grosse douleur. Mm-hmm. Voilà. Et je pense que il n'y a qu'une maman qui peut la ressentir.
Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une production Europe 1 Studio. Réalisation, Kevin Ousty. Diffusion, Héloïse Berthier. Pour écouter la prochaine histoire, je vous propose de nous suivre sur votre plateforme préférée. Et si ce témoignage vous a plu, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour en parler. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.